Chapitre 16. Le réveil sonna, tirant Martin du sommeil avec une soudaineté qui eût donné des maux de tête à un homme de constitution moins solide. Même lorsqu'il dormait à poing fermé, il était capable de se réveiller en un clin d'œil, comme un chat, et toujours du bon pied, heureux de sortir enfin de l'inconscience qu'il haïssait. Il avait trop de choses à faire, trop de choses à vivre pour se complaire dans le sommeil, ce voleur de vie. Avant que la sonnerie s'arrêtât, il avait déjà la tête plongée jusqu'aux oreilles dans l'eau froide et vivifiante du lavabo. Mais il ne suivit pas son programme habituel. Il n'y avait aucune histoire inachevée en souffrance, aucune page blanche en attente d'inspiration. Il avait étudié tard, et c'était presque l'heure du breakfast. Il essaya de lire un chapitre de Fisk, mais il avait l'esprit ailleurs et referma le livre. Aujourd'hui commençait une nouvelle bataille qui ne lui laisserait pas le temps d'écrire. Il en éprouva une sorte de nostalgie, comme lorsqu'on quitte son foyer et les siens. Il jeta un dernier regard à ses manuscrits. Ses pauvres enfants abandonnés dont personne ne voulait, et les feuilleta en guise d'adieu, en relisant çà et là quelques-uns de ses passages favoris. Le pot et Aventure eurent même droit à une lecture à voix haute. Joie, son dernier-né, achevé la veille et entassé dans le coin faute de timbre, était le plus cher à son cœur. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il. À moins que ce ne soit les rédacteurs qui n'y comprennent rien. Qu'est-ce qui les gêne chez moi? Ils publient des trucs bien pires tous les mois, tout ce qu'ils publient est pire, enfin presque. Après le breakfast, il rangea la machine à écrire dans son étui et la rapporta à Auckland. « J'ai un mois de traite en retard, » expliqua-t-il au préposé du magasin. « Mais dites au directeur que je vais travailler et que je réglerai ma situation d'ici un mois. » Il prit le ferry pour San Francisco et se rendit dans un bureau de placement. « N'importe quel genre de boulot, pas de spécialité, » dit-il à l'agent. Il fut interrompu par un nouvel arrivant, attifé de vêtements un peu voyants, tels que les affectionnent les ouvriers qui se piquent d'élégance. L'agent l'accueillit par un signe négatif de la tête. « Toujours rien, hein ?» dit l'homme. « Aïe, il me faut pourtant quelqu'un aujourd'hui. » Il se tourna vers Martin. Rapide échange de regards, Martin devina tout de suite, à son visage pomponné mais blême et bouffi, qu'il avait passé la nuit à nocer. « Tu cherches du boulot? Qu'est-ce que tu sais faire ?»« Homme de peine, marin, tapé à la machine, pas de sténo, monté à cheval, tout et n'importe quoi, » répondit Martin. L'autre approuva. « Ça me paraît correct. Je m'appelle Dawson. Joe Dawson, et je cherche un blanchisseur. »« C'est pas dans mes cordes, » répondit Martin, amusé. Il se voyait mal en train de repasser de la lingerie féminine à Fanfreluche. Mais comme le type lui plaisait, il ajouta « Sauf pour la grosse lessive. Ça je connais, je l'ai souvent fait en mer. » Joe Dawson réfléchit un instant. « Écoute, il y a peut-être moyen de faire affaire, si on en causait. » Martin acquiesça. « Voilà, c'est une petite blanchisserie à la campagne du côté de Shelly Hot Springs. L'hôtel, tu vois, c'est un travail pour deux, un patron et un aide. Je suis le patron. Tu travailles pas pour moi, mais c'est moi qui commande. Tu crois que tu pourras apprendre ?» Martin médita la chose. La perspective était séduisante. Quelques mois là-bas, du temps pour étudier. Il pouvait travailler dur et étudier dur. « La soupe est bonne et t'auras une chambre à toi, » reprit Joe. Marché conclu. Une chambre à lui, où il pourrait laisser brûler sa lampe la nuit sans se faire gourmander, c'était tout ce qu'il demandait. « Mais faudra bosser comme un nègre, » ajouta l'autre. Martin tapota ses épaules musculeuses d'un air entendu en disant « Ça s'attrape pas en se tournant les pouces, ça. Alors, top là !» Joe se prit le front dans une main. « Malheur, j'ai la tête qui tourne, j'y vois plus. J'ai fait la bombe hier soir. Bon, voilà comment ça se présente. Le salaire pour deux est de $100, nourri, logé. 60 pour moi, 40 pour le second. Mais le gars que j'avais avant connaissait la chanson. Toi, t'es un bleu. Si je t'embauche, je serai obligé de me taper une partie de ton boulot au début. Donc, je te propose de commencer à 30, mais je jouerai franc-jeu. Dès que tu te seras fait la main, tu auras tes 40.
« Ça marche, » assura Martin en lui serrant la main. « Je peux avoir une avance ?» Pour le billet de train et les frais ?
J'ai tout flambé, répondit tristement Joe en portant de nouveau la main à sa tête douloureuse. Tout ce qui me reste, c'est un billet de retour. Et moi, j'ai juste de quoi payer ma pension. Ne la paie pas. Impossible, c'est ma sœur la logeuse. Joe soupira en sifflant et se creusa la cervelle sans grand résultat. J'ai encore assez pour t'offrir un boc, fit-il contrit. Allez, viens, on va réfléchir à la question.
Martin déclina l'invitation. Buveur d'eau ? Il opina du chef, et Joe se lamenta.
« Ah, je devrais en faire autant, mais j'y arrive pas. Quand j'ai bossé dur pendant la semaine, y a pas, faut que je picole. Sinon, je serais capable de me trancher la gorge ou de foutre le feu. Mais je suis content que tu boives de l'eau. Continue. »
Martin avait conscience de l'énorme gouffre qui le séparait de cet homme, le gouffre creusé par les livres, mais il le franchissait sans peine. Il avait grandi dans le monde ouvrier, et la solidarité de classe était une seconde nature chez lui. Il résolut lui-même le problème du transport, trop épineux pour le cerveau embrumé de l'autre. Il enverrait sa malle à Chili Hot Springs par le même train que Joe, en profitant du billet de celui-ci, et, quant à lui, il ferait le voyage à bicyclette. Il y avait plus de 60 miles de route, mais en roulant tout le dimanche, il arriverait à temps pour prendre son travail le lundi matin. Il alla tout de suite boucler ses valises. Il n'avait pas d'adieu à faire. Ruth et toute sa famille passaient l'été dans les Sierras, à Lake Tahoe. Il arriva le dimanche soir à Chili Hot Springs, fourbu et couvert de poussière. Joe l'accueillit à bras ouverts. Il avait travaillé toute la journée avec une serviette mouillée autour de la tête pour assourdir sa migraine. « J'avais de la lessive en retard avec le temps que j'ai perdu pour aller te chercher, » expliqua-t-il. « Ta malle est arrivée, elle est dans ta chambre. Ah, mes aïeux, tu parles d'une malle. Qu'est-ce que t'as là-dedans, des lingots d'or ?» Joe s'assit sur le lit en regardant Martin déballer ses affaires. La malle en question était une caisse de livraison, cédée par M. Higginbotham pour un $0.50. Deux poignées en corde, clouées dessus par Martin, l'avaient transformée en une malle acceptable pour le fourgon à bagages. Joe écarquilla les yeux en voyant, après quelques chemises et tout un lot de sous-vêtements de rechange, des livres et des livres sortir de la caisse.
« Il y a des bouquins jusqu'au fond ? » demanda-t-il.
Martin acquiesça et continua à disposer ses livres sur la table de cuisine qui tenait lieu de table de toilette.
« Mince alors !» s'exclama Joe.
D'abord perplexe, il finit par aboutir à la seule déduction qui lui sembla logique, d'y voir. « Tu dois pas être le genre à courir les filles, toi. »«
Non, je cavalais pas mal avant. Mais depuis que je me suis mis à lire, je n'ai plus le temps. »«
Ici non plus, t'auras pas le temps. Tu bosses et tu dors, c'est tout. »
Martin sourit en songeant aux 5 petites heures de sommeil quotidien qu'il s'accordait. La chambre était située au-dessus de la blanchisserie, dans le même bâtiment que le moteur qui pompait l'eau, produisait l'électricité et faisait tourner les machines à laver. Le mécanicien qui occupait la chambre voisine entra à l'improviste pour se présenter au nouvel employé et aida Martin à installer un système d'éclairage ingénieux au moyen d'une rallonge qui permettait à l'ampoule de coulisser sur un fil de la table vers le lit. Martin se leva à 6h15 le lendemain matin. Le breakfast était servi à 6h45. Il y avait une baignoire pour les domestiques, dans le bâtiment de la blanchisserie, et il sidéra Joe en prenant un bain froid.
« Mince, t'es une pointure, toi !»
commenta celui-ci en s'asseyant à table dans un coin de la cuisine de l'hôtel. Il y avait avec eux le mécanicien, le jardinier, l'aide-jardinier et 2 ou 3 garçons d'écurie. Ils mangèrent avec hâte et morosité, en parlant peu, et Martin put prendre la mesure du fossé qui les séparait. Leur faible calibre mental le déprimait, et il était impatient de leur tirer sa révérence. Il avala sa triste mangeaille aussi rapidement qu'eux, et sortit de la cuisine en poussant un soupir de soulagement. C'était une petite blanchisserie à vapeur fort bien équipée, avec des machines ultramodernes qui faisaient tout ce que des machines peuvent faire. Après avoir reçu ses instructions, Martin tria le linge sale pendant que Joe mettait la lessiveuse en marche et confectionnait des provisions de savon en mélangeant des produits chimiques toxiques qui l'obligeaient à emmailloter sa tête comme une momie pour protéger ses narines, sa bouche et ses yeux. Ayant fini son tri, Martin l'aida à essorer le linge, ce qui fut fait au moyen d'un récipient portatif qui tournait à plusieurs milliers de tours à la minute et exprimait l'eau par la force centrifuge. Ensuite, le linge passait dans le séchoir. Le travail s'organisa vite, l'un chargeait la machine et l'autre la vidait. Vers la fin de l'après-midi, on mit les fers à chauffer pendant l'essorage des bas et des chaussettes, puis on attaqua le repassage. À 18h, Joe dodelina de la tête d'un air soucieux.
« On est en retard, dit-il. Faudra bosser après le souper. » Et ils reprirent le travail après le souper, sous les lumières électriques, jusqu'à ce que le dernier sous-vêtement fût repassé, plié et rangé dans la salle de distribution. Il était 22h. C'était une chaude nuit californienne. Malgré les fenêtres ouvertes,
La pièce, surchauffée par la caléfaction des fers, était une véritable étuve. Martin et Joe, bras nus, en maillot de corps, transpiraient et pantelaient.
« C'est comme arrimer une cargaison sous les tropiques, » dit Martin quand ils remontèrent vers leur pénate.
« Tu t'y feras, » répondit Joe. « Tu te débrouilles bien. Si tu tiens le rythme, tu resteras pas longtemps à $30.
Dans un mois, t'auras tes 40. Mais ne me raconte pas que t'as jamais repassé avant. Mon œil. »
« Jamais parole, pas le plus petit bout de chiffon, » protesta Martin. Il fut surpris d'être aussi fatigué en arrivant dans sa chambre, oubliant qu'il avait travaillé 14 heures d'affilée, debout. Il régla son réveil sur le 6 et fit le calcul. En lisant jusqu'à 1 heure du matin, il aurait encore son comptant de sommeil. Il retira ses chaussures pour soulager ses pieds enflés et s'assit à sa table avec ses livres. Il ouvrit Fiske à la page où il s'était arrêté 2 jours auparavant et se mit à lire. Il eut du mal à assimiler le premier paragraphe, voulut le relire et se réveilla, tout engourdi et frissonnant dans le courant d'air froid qui soufflait de la montagne à travers la fenêtre. Il consulta le réveil, 2 heures. Il s'était assoupi 2 heures durant. Il se déshabilla et rampa dans son lit. À peine sa tête eut-elle touché l'oreiller qu'il dormait déjà. Le mardi fut une nouvelle journée de labeur sans rémission. La vitesse d'exécution de Joe faisait l'admiration de Martin. Joe était une bête de travail. Ses gestes étaient réglés comme du papier à musique et il ne relâchait jamais le tempo. Parfaitement concentré sur son ouvrage et cherchant continuellement à gagner du temps, il ne manquait jamais une occasion de montrer à Martin comment faire en 3 mouvements ce qu'il faisait en 5 ou en 2 ce qu'il faisait en 3. Élimination des gestes inutiles, se dit Martin. Prends-en de la graine. C'était un bon ouvrier lui-même, prompt et habile, qui mettait toujours un point d'honneur à tenir la cadence des autres. Ne voulant pas être en reste, il s'appliqua à suivre les conseils de son collègue et eut au fait d'attraper le tour de main. Afin d'éviter la formation de bulles lors du repassage, il extirpait les résidus d'amidon collés dans la double épaisseur de lin des cols et des manchettes avec une prestesse qui lui valut les compliments de Joe. Il n'y avait pas une minute de répit. Joe ne soufflait jamais et sautait d'une tâche à l'autre sans perdre un instant. Ils amidonnèrent 200 chemises blanches avec une technique consommée. La main droite saisissait la chemise en un mouvement circulaire, la laissait retomber sur la main gauche et plongeait dans l'amidon pour empeser les manchettes et le plastron. L'amidon était si brûlant qu'il collait à la peau, ce qui les obligeait à se rincer continuellement à l'eau froide. Cette nuit-là, ils travaillèrent jusqu'à 22h30 à des amidonnages de fantaisie les plus difficiles que nécessitait la délicate lingerie féminine.
« Vive les tropiques, au diable les vêtements !» plaisanta Martin.
« Et je serai bon pour le chômage, » répondit Joe sans rire. « Je sais rien faire d'autre que blanchisseur.
Mais tu t'y connais drôlement.
Bien obligé. À 11 berges, je bossais déjà à l'essoreuse de la Contra Costa à Auckland. Il y a déjà 18 ans de ça et j'ai jamais rien fait d'autre de ma vie. Mais ce boulot-ci est le plus dur que j'ai connu. Il nous faudrait un homme de plus, sinon 2. On sera encore de corvée demain soir. Le mercredi, c'est toujours le coup de feu. »
Martin régla son réveil, s'installa à sa table et ouvrit Fiske. Il ne finit pas le premier paragraphe. Les mots se brouillaient devant ses yeux et sa tête était lourde. Il marcha de long en large en se donnant des coups de poing sur le crâne pour essayer de résister au sommeil. Il cala le livre devant lui, soutint ses paupières avec ses doigts et s'endormit, les yeux ouverts. Alors, il abandonna, se déshabilla dans une demi-inconscience et se coucha. Il dormit comme un loir, 7 heures durant, jusqu'à la sonnerie fatidique, et se réveilla encore fatigué.
« T'as beaucoup lu ?» demanda Joe.
Martin secoua la tête.
« Rassure-toi, faut qu'on turbine ce soir, mais le jeudi, on arrête à 6 heures, ça te laissera une chance. »
Martin lava des lainages ce jour-là, à la main, dans une grande barrique, selon un procédé ingénieux, un moyeu de roue de charrette monté sur un manche de baratte, suspendu à un ressort.
« Mon invention !» dit fièrement Joe. « C'est mieux que la planche à laver et ça te fait gagner 15 minutes par semaine, ce qui n'est pas à négliger. »
Le repassage automatique des cols et des manchettes était également une idée de Joe. Il l'expliqua à Martin, ce soir-là, pendant qu'il travaillait à la lumière électrique.
« Aucune autre blanchisserie ne fait ça. Si je veux avoir fini le samedi après-midi à 3 heures, c'est le seul moyen. Il suffit de connaître le truc. Tu les passes à l'étuve 3 fois de suite.
Le tout est d'avoir la bonne température et la bonne pression. Regarde-moi ça. »
Il lui montra une manchette. « Ça serait pas mieux fait à la main ou sur une tuileuse. »
Le jeudi, Joe était dans une colère noire. Un lot supplémentaire d'amidonnage de fantaisie venait d'arriver.
« Je vais démissionner !» déclara-t-il. « Je tiens plus le coup, je vais rendre mon tablier. Je me crève toute la semaine pour finir à temps et il trouve rien de mieux que de me coller du boulot en plus. On est dans un pays libre et je m'en vais aller lui dire son fait, moi, à ce gros Hollandais. Et je mâcherai pas mes mots, tu peux me croire. Des amis d'honnage, en plus, non mais des fois. »
Puis, résigné à son sort, il changea son fusil d'épaule et reprit.
« Bon, eh bien on va s'y mettre dès ce soir. »
Et Martin ne lut pas cette nuit-là. Il n'avait pas ouvert un journal de toute la semaine et curieusement, cela ne lui manquait pas. L'actualité ne l'intéressait pas. Il était trop fatigué pour s'intéresser à quoi que ce fût, mais projetait tout de même de se rendre à Auckland à bicyclette, samedi, s'il finissait dans l'après-midi. 70 miles pour l'aller, autant pour le retour, dimanche, ce n'était pas le meilleur moyen de se reposer entre 2 semaines de labeur. Il eût été plus commode de faire le trajet par le train, mais le billet coûtait 2,50 $ et il avait décidé d'économiser.